Bien, Boker Tov Likoulam, Boker Tov, on ne pourra évidemment pas pallier à l'absence du Rav Benarosh, mais on va essayer un tout petit peu de rentrer dans un univers, dans le monde de Torat HaSod, et nous sommes toujours, toujours, on ne veut pas le quitter, cette deuxième moitié du 19e siècle, et nous partons. Après avoir voyagé en Europe de l'Est, en Eretz Israël, eh bien, aujourd'hui, ça y est, nous partons à l'Est. Nous partons à Bagdad. Eh oui, ça y est, il est temps qu'on s'attaque à un énorme morceau. Quand on parle de Torah Tassod, quand on parle de Manigout, quand on parle de grandeur et je vais commencer directement avant de parler de la vie de Chacham Yosef Chaim, Arav Yosef Chaim mi Bagdad, Haben Ishraï. Alors, on va essayer de dévoiler petit à petit qui est le Ben Ishraï par peut-être trois citations. Alors, trois citations qui ne viennent pas de lui, évidemment, justement pour qu'on essaie de comprendre de qui on parle. Il y a un homme qui s'est souvent opposé au Ben Ishraï, et il s'appelait Arav Ovadia Yosef. Et lorsque le Rav Ovadia s'oppose au Ben Ishraï, on verra tout à l'heure pourquoi, eh bien, il n'oubliera pas quand même de dire que lorsqu'il parle du Ben Ishraï, il faut l'appeler d'une certaine façon. Et j'aimerais vous citer l'appellation du Ben Ishraï version Arav Ovadia. Nous dit le Rav Ovadia, quand on parle du Ben Ishraï, il faut dire Geon uzenu vetifartenu, Rabban shel kol bnei agola, Abir haroim, Saba de mishpatim, Mufla shebasanedrin, Hameir laaretz veladarim, Hageon hagadol, Mivtzar oz umigdol. Ok. Bon, ça c'est déjà du titre. Je traduis. Quand le Rav Ovadia parle du Ben Ishraï, eh bien, il dit qu'il est le géant puissant et plein d'éclat. Il est le maître de tous les fils de l'exil. Il est le chevalier des bergers. Il est le papy des lois. Il est le plus grand dans le Sanhédrin, il éclaire la terre entière, il est le géant, le grand, la tour de puissance est élevée. Bon, voilà, oui, c'est déjà une belle définition, surtout pour quelqu'un qui va des fois s'opposer à lui. Mais ça ne vous laisse que montrer un tout petit peu la grandeur du Ben Ishraï. L'autre citation, c'est une histoire. C'est une histoire que j'ai entendue de la bouche du Rav Mordechai Eliyahu. Alors, le Rav Mordechai Eliyahu, évidemment, à un moment donné, on va parler du Rav Eliyahu quand on va arriver à la fin du XXe siècle. Mais le Rav Eliyahu, il raconte une histoire comme quoi un jour, il a donné un cours et enfin, comme toutes les fois, il donnait des cours de halakha, et on était à l'approche de Rosh Hashanah, et il a dit que les femmes, quand elles allument les bougies de Rosh Hashanah, elles doivent dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu, Lahadlik Ner Shel Yom Tov. Et non pas Ner Shel Yom Hazikaron, comme peuvent le dire les Ashkenazim. C'est-à-dire, chez les Sfaradim, il dit, il faut dire Ner Shel Yom Tov. Et il y avait, dans l'assistance, il y avait un vieux monsieur qui avait encore eu l'occasion d'entendre en live le Ben Ishraï et qui lui dit, comment tu peux dire un truc comme ça? Non, le Rav Eliyahu, il était jeune à ce moment-là, quand ça lui est arrivé. Et donc, bon, lui, il raconte l'histoire beaucoup plus tard, mais je veux dire, ça lui est arrivé quand il était jeune. Et le vieux monsieur lui dit, mais comment tu peux dire un truc comme ça? Le Ben Ishraï, il a dit qu'il faut dire Yom HaZikaron. Et le Rav Eliyahu, il dit, écoute, ça me paraît bizarre, parce que j'ai bien l'impression qu'il faut dire l'Er Shel Yom Tov. Mais si tu dis que le Ben Yishraï, il a dit Ner Shel Yom HaZikaron, et que tu témoignes de ça, ben je reviens sur ce que j'ai dit. Il n'y a pas de problème. Si le Ben Yishraï, il a dit, le Ben Yishraï, il a dit. Bon, mais le Rav Eliyahu, ça lui paraît très bizarre. Ça lui paraît très bizarre, c'est pas possible, machin. Et il va faire des recherches. Et il va faire des recherches et il va essayer de remonter chez tous les anciens de Bagdad qui auraient pu être présents au moment où le Rav Yosef Raïm aurait dit ça. Et finalement, il va trouver un des vieux rabbins de Jérusalem qui était un des élèves du Ben Yishraï. Et il dit, la personne qui t'a dit ça, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. On était à l'approche de Rosh Hashanah et le Ben Yishraï, il a fait une grande dracha, il a dit, Od me'at, ze yom hazikaron. C'est le nom de Rosh Hashanah. Et il a dit, et donc il faudra faire très attention lorsque les femmes, elles vont allumer les bougies pour faire rentrer la fête. Et il n'a pas dit qu'il fallait qu'elles disent, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'hadlik ner shel yom hazikaron. Mais comme il avait dit dans la phrase d'avant, Rovdai, ze od me'at yom hazikaron, alors les gens ont compris ça. Et l'année suivante, comme il y a eu toute une histoire à Bagdad que les gens ont commencé à dire Yom HaZikaron, Yom HaZikaron, l'année suivante, le cours qu'il a fait juste avant Rosh Hashanah, il a dit, vous m'avez mal compris l'année dernière, il faut faire la bracha Yom Tov, la dikner shel Yom Tov, et pas shel Yom HaZikaron. Seulement, dit le vieux rabbin au Rav Eliyahu, la personne qui t'a interpellé dans le cours, on le connaît, il n'était pas là l'année suivante. Lorsque le Rav Yosef Raïm s'est repris. Et donc finalement, tu as raison de dire qu'il faut dire Yom Hazikaron, Yom Tov et pas Yom Hazikaron. Mais le Rav Eliyahu dit, moi, si j'ai pas autre chose, si j'avais pas réussi à trouver quelqu'un qui me confirme dans ce que j'ai dit, si le Ben Yishraï, il a dit, il faut dire Yom Tov et pas Yom Hazikaron, eh bien, enfin Yom Hazikaron et pas Yom Tov, eh bien, moi, j'annule complètement ma parole devant la sienne. Mais c'est de ça qu'on parle quand on parle du Ben Yishraï. Comme dira par exemple Rabbi Yecheskel Moshe Alevi, qui était le chef des Dayanim à Bagdad. Il disait, Im yomar li Rabbi Yosef Chaim al yamin shehu smol ve al smol shehu yamin, lo e'arer achare devarav. On parle donc de quelqu'un qui va être complètement, qui va faire complètement l'unanimité dans le monde de la Torah. À tel point, Rabotai, à tel point que le Hadmour de Gour, Hadmour de Gour, vous allez me dire, on est quand même vachement loin de Bagdad. Mais Hadmour Migour, donc c'est le deuxième Hadmour de Gour, le Sfat Emet, il demande que sur sa pierre tombale, on n'écrit pas comme sur son père, où le Chidushé Arim, il y avait marqué Yachid Bedoro. Genre sur la pierre tombale, il y avait marqué il est unique dans sa génération. Et le deuxième Hadmour de Gour, il vient et il dit, moi je veux pas qu'on écrive ça sur ma pierre tombale, parce que Yachid Bedoro, c'est un Ben Yishraï. Et on parle de Gour. Donc vraiment, aucun rapport. Et donc voilà, c'est ce qui nous permet de comprendre un tout petit peu qui est Racham Yosef Chaim à Ben Yishraï. Alors venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui est le Ben Yishraï? Alors, Ben Yishraï, c'est donc un Rav Yosef Chaim Mik Bagdad. Il est tout d'abord issu d'une famille bagdadienne bien en place. C'est-à-dire, ça fait longtemps que la famille est là-bas et son père, Rabbi Eliyahu Ben Arav Moshe Chaim, il était le Rav Arashi de Bagdad. Et il faut comprendre que c'est quelqu'un qui non seulement est dans la Torah, mais en plus, il réussit très bien au niveau économique. Et donc, le jeune Yosef Chaim grandit non seulement dans une ambiance de Torah, mais dans une ambiance où enfin, l'argent ne manque pas. Et donc, eh bien, il va pouvoir se concentrer non pas à se poser la question de comment on amène la Parnassa, mais il va pouvoir se concentrer uniquement sur la Torah. Et c'est ce qui va lui l'amener à prendre des décisions incroyables. Lorsqu'il a 6 ans, eh bien, son père a l'habitude de donner à lui et à ses autres enfants, Erev Shabbat, de l'argent pour s'acheter des bonbons, enfin des choses metoukim que les gens qu'ils puissent manger le soir de Shabbat à la table de Shabbat. Et tous les Shabbats, alors que tous les enfants sortent ce qu'ils ont acheté, eh bien, le jeune Yosef Raïm ne sort pas de rien du tout. Et son père lui demande tous les Shabbats, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu n'as rien acheté? Il dit, non, j'ai acheté, mais je n'ai pas pu me contrôler. J'ai mangé avant Shabbat, c'était trop bon. Bon, et à chaque fois, le père dit, bon, ben, la semaine prochaine, essaye de les garder pour Shabbat. Jusqu'à ce qu'un jour, la petite sœur de Yosef Raïm se dit, c'est pas possible. C'est pas possible que mon frère, qui a une telle hygiène de vie, il a 6 ans, hein, tu me diras, mais qui est tellement macpide sur lui-même, il n'arrive pas à se retenir quelques heures et manger son... Elle décide de le suivre. Et en fait, elle se rend compte que lorsqu'il reçoit l'argent, il va au chouk, mais il ne va pas acheter quoi que ce soit, il continue à marcher jusqu'au quartier des gens pauvres de la communauté, et il donne cet argent à une jeune femme, une vieille femme, qui est dans le besoin, et il donne cet argent-là, et avec cet argent-là, il va pouvoir acheter des chalotes. Et un jour, donc le Shabbat qui suit, lorsque le père demande « Alors, qu'est-ce que tu as fait avec ton argent ?» Il dit « Ah, j'ai pas pu me contrôler, j'ai déjà mangé. » Sa petite sœur balance l'info. Il dit « Mais non, pas du tout. » En fait, tous les Shabbats, tous les vendredis, il va donner cet argent au Hanim. Et c'est là que son père lui dit « Puisque c'est comme ça, je te donnerai à partir de maintenant double ration d'argent. Tu iras donner au Hanim et tu t'achèteras quand même quelque chose de matok pour rentrer dans le Shabbat, pas seulement mitor mitzvah, elle a mitor metikut. Il faut rentrer dans le Shabbat, dans la mitzvah, comme tu l'as fait, mais également avec la douceur. Et c'est pour ça que tu vas quand même acheter tes friandises. À 7 ans, ça va être un tournant de sa vie. Il tombe dans un puits très profond. Yesh Omrim, qu'il jouait. Yesh Omrim, qu'il était en train d'étudier, il n'a pas fait attention. Quoi qu'il en soit, il tombe dans le puits. Et à ce moment-là, alors que ses forces commencent à le quitter, eh bien, sauf, alors qu'il vient de perdre connaissance, on le sort du puits. Et lorsqu'il revient à lui, il dit « Akadosh Baruch Hu Itzilanu Veitzilani Velachen » puisqu'il dit « C'est Dieu qui m'a sauvé, alors je dédie toute ma vie à Dieu. Et toute ma vie sera Limoud, Velelamed, Gdoulat, Hashem. » Ben voilà, Zéou, c'est comme ça, c'est parti. Et à partir de là, eh bien, ça ne s'arrête plus. À l'âge de 14 ans, il est accepté au Bet Midrash le Rabbanim Bet Zalcha, qui était sous la direction de Rabbi Abdallah Somer, qui va devenir son maître. Rabbi et Abdallah Ovadia Somer, eh bien, ça va être parmi les plus grands poskim. On en a déjà parlé de lui. Un des plus grands poskim de cette génération, de la génération précédente, c'est-à-dire du début du 19e siècle. Et donc, à 14 ans, il a accepté au Bet HaMidrash de Rabbanim. Il va avoir une correspondance également avec un autre personnage que nous avons déjà évoqué, qui s'appelle Rabbi Chaim Palachi. Et Rabbi Chaim Palachi était en contact étroit en tant que grand rabbin de Izmir, en tant que grand rabbin de l'Empire ottoman. Eh bien, il avait beaucoup de contacts avec Rabbi Eliyahu, Rabbi Eliyahu, le père du Ben Ishraï. Et un jour, Rabbi Chaim Palachi va envoyer une lettre à Rabbi Eliyahu, mais Rabbi Eliyahu va mettre quelques jours avant de pouvoir s'occuper de la lettre qui est sur son bureau, parce qu'il a plein d'autres dossiers à traiter. Le jeune Yosef Raïm, 14 ans, eh bien, va tout simplement voir la lettre, l'apprendre, étudier le sujet et écrire une réponse à Rabbi Chaim Palachi, pas au nom de son père, mais en son nom. Et il lui envoie. Quelques jours plus tard, Rabbi Eliyahu envoie sa réponse à Rabbi Chaim Palachi. Et en retour, Rabbi Chaim envoie une réponse de la réponse à Rabbi Eliyahu en lui disant « Écoute, j'ai reçu ta réponse, mais j'avais reçu il y a quelques jours déjà la réponse de ton fils, et sache qu'elle est plus profonde que la tienne, et donc ton fils sera parmi les plus grands des plus grands. Bon, oui, on parle de quelqu'un qui va tout de suite montrer sa grandeur. À 18 ans, il se marie, Ben Shmona et Sre la Choupa, et il va avoir deux enfants, un fils, une fille. Oumit Parnes, il n'est pas rabbin, et pour ça, il reçoit de l'argent. Il refuse d'être payé en tant que rabbin. Il dit, j'ai une parnassa, il n'y a pas de raison que je prenne de l'argent pour la Torah. Et il va donc avoir une shoot à foot avec ses quatre frères. Et c'est quoi leur business? Ils vendent du tissu. Ils vendent des tissus précieux. Bon, très bien. Attendez, toute petite seconde. Des mute.
C'est bon.
Ah, merci. Je pouvais pas me démuter. C'est très grave. Tom.
Ah, quelle idée de te muter en même temps.
C'est mon fils qui m'appelait pour me dire qu'il était bien arrivé à la yeshiva. Bekitso, lochashu. Quoi qu'il en soit, donc voilà, il se marie à 18 ans et donc il est mis de Parnes de la vente de tissus précieux, Kol HaKavod, à Kol Besed. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il décide que c'est là maintenant, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à construire sa shita dans la Torah. Et d'après sa shita, il est extrêmement marmir sur lui-même au niveau, par exemple, de Kdushat Abrit. Et donc, il fera très attention que dans sa maison et dans la maison de sa famille, il n'y ait aucune comment dit, femme de ménage ou femme d'intérieur qui ait moins de 60 ans. Il dit, c'est pas la peine de tenter le diable. Et à l'époque, c'était très, très courant à Bagdad que les personnes riches avait des femmes qui s'occupent de tenir la maison. Il dit, mais par contre, il ne faut pas que ce soit des femmes jeunes, parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien du tout. Bekitsour, Arav Yosef Raïm va commencer à avoir des contacts répétés avec les Talmidei Chachamim de Yeshivat HaMekoubalim Betel. Donc la Yeshivat HaMekoubalim de Jérusalem, dont on a déjà parlé. En 1859, le père Rabbi Eliyahu part rejoindre son créateur. À ce moment-là, Rabbi Yosef Chaim, qui jusqu'à présent ne voulait pas se mettre en avant, justement par respect pour son père, eh bien, commence à prendre des responsabilités de direction. À la fin de la Shiva de son père, eh bien, il va commencer à diriger la communauté de Bagdad et il le fera jusqu'au jour de sa mort. Il sera le Rav de Bagdad pendant 50 ans. C'est quand même pas rien, un rabbin qui officie, qui est chef d'une communauté, et pas des moindres, parce qu'à cette époque-là, la communauté de Bagdad est l'une des plus importantes, pendant 50 ans. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que, vous savez, il y a plein de rabbins qui ont été rabbins pendant 50 ans. Mais ils ont souvent, pour ne pas dire tout le temps, bougé. Et à chaque fois qu'un rabbin il bouge d'endroit ou un autre, eh bien, ça porte atteinte à son limoud, ça porte atteinte à la façon de se pouvoir se poser sur les questions. Et donc, ben, Rabbi Yosef Haïm, il va être le rabbin de non seulement Bagdad, mais évidemment tous les juifs d'Irak, également les juifs d'Inde, les juifs de Perse, et même les juifs d'Eretz Israël vont se rattacher au psakim de Rabbi Yosef Haïm, Chacham Yosef Haïm, à Ben Ishraï. Alors, attention, dans la mesure où le Ben Ishraï va être quelqu'un d'extrêmement mekoubal, et ça on en reparlera, alors il va attirer la réticence de beaucoup de personnages, de beaucoup de rabbanim qui sont plus rationnels. Et donc dans le monde ashkénaz, pas chassidi, dans le monde ashkénaz, comme par exemple le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, eh bien, il va voir d'un très mauvais œil l'influence grandissante du Ben Ishraï. Et oui, effectivement, et il va y avoir un poulmousse. Il va y avoir un poulmousse puisque les rabbanim d'Europe occidentale qui vont s'opposer à lui, eh bien, vont clairement faire entendre leur opposition. Dans, vous rappelez, le premier journal hébreu d'Eretz Israël qui s'appelait Alevanon. Vous vous rappelez, c'est un journal donc qui était tiré à Jérusalem, qui était à Paris, qui était à Londres. Eh bien, dans ce journal-là, il va y avoir un grand chassé-croisé entre les rabbins d'Europe occidentale qui s'opposent formellement à l'enseignement de la Kabbalah et Rabbi Yosef Haïm qui leur répond sans broncher, qui répond partout. C'est-à-dire parce que lui, Rabbi Yosef Haïm, pense que la halakha bli a kabbalah, c'est lo halakha. Et ça va être quelque chose qui va revenir énormément dans sa psika. Dans sa psika, eh bien, il n'est pas le premier mekoubal. On a déjà vu plein de Mekoubalim. Mais très souvent, alors qu'on a expliqué depuis le début de notre étude que les Gdolé à Poskim étaient également Gdolé à Mekoubalim, donc ce n'est pas du tout étonnant de trouver un Rav Posek Alakha qui est Gam Mekoubal, Zevadaï, il n'y a aucun problème. Par contre, là où c'est plus étonnant, c'est que d'habitude, les Mekoubalim qui sont posqués à Alakha, pour le Tzibour, pour le peuple, ils sont posés Kalacha, mais pas Alpia Kabbalah. Et ils ont des comportements Alpia Kabbalah pour eux. Pour eux, pour leurs élèves très proches. Mais pas pour le Tzibou. Alors que Rabbi Yosef Haïm, eh bien, il va tout simplement démocratiser l'enseignement de la Kabbalah au niveau de la Halakha. Et alors qu'il dit qu'il est d'accord avec les Juifs séfarades depuis 400 ans maintenant, qu'il faut accepter les enseignements de Maran HaShulchan Aruch, il n'hésitera pas, alors d'abord, à être beaucoup plus mahmir que le Shulchan Aruch, Alpi Ahari Veharashash. Et ça, c'est un chidouche. C'est un chidouche énorme qu'il va être posek halakha pour tout le monde, Alpi Oraot Amekoubalim. Et ça, c'est très, 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 très nouveau. Ça ne va pas être suivi par tout le monde, mais le Ben Ishraï, c'est ce qui le différencie, si vous voulez, de tous les autres rabbanim qu'on a pu étudier jusqu'à maintenant. Sa psikat halakha, elle est selon la Kabbalah. Il va également utiliser énormément de gematriot, de drashot, alpi, à gematriot, également dans la halakha. C'est ça qui va pousser un rav comme le rav Yosef d'être de temps en temps en opposition avec Shitat HaBein Ishray qu'on peut voir dans son livre Alichot Olam. Les élèves, les successeurs de la Shita du Ben Ishray, ça va être le Rav Eliyahu, ça va être évidemment tous les Gdolei HaMekoubalim Acharav, Rabbi Yehuda Ftaya, Rabbi Yehuda Tzadka, Rabbi Ben Sion Abba Shaul, tous ces gens-là vont être poskim comme lui, Alpi, à Kabbalah, et vont suivre, pour l'écrasante majorité, les psakim du Ben Ishray. Mais le Ben Ishray est à Bagdad. Quelle est sa relation avec Eretz Israël? Bien, tout d'abord, tous ses livres, et on va parler de ses livres dans quelques minutes, et il en a écrit beaucoup, tous ses livres, il les fait imprimer à Jérusalem. Aleph, pour donner de la parnassa aux imprimeurs de Jérusalem, mais au-delà de ça, parce que il veut que son livre voie le jour, Be'eretz HaKodesh. Parce qu'il sait que l'ère d'Eretz Israël rend les choses claires. Et donc il dit, si sous ma plume, les choses ne sont pas forcément claires pour tout le monde, le fait qu'il soit écrit à Jérusalem, eh bien, ça sera forcément bénéfique pour cela. Deuxièmement, il recevra tous les ans chez lui, pendant des mois et des mois, les Shadarim d'Eretz Israël. Shadar Shlouche de Rabbanan d'Eretz Israël. C'est lui qui reçoit les rabbins d'Eretz Israël qui viennent pour enseigner, pour ramasser de l'argent pour Eretz Israël. C'est également lui qui va réussir à convaincre Yosef Avraham Shalom, Yosef Avraham Shalom qui était un des grands donateurs de cette époque-là, c'est lui qui va le convaincre de construire la yeshiva de Porat Yosef dans la Hira Atika. Alors que ce dernier voulait investir pour construire un hôpital, Rabbi Yosef Chaim lui a dit, tu pourras construire un hôpital uniquement après que tu aies construit de quoi construire la Nefesh. Tu t'occuperas du gouffre après t'être occupé de la Nefesh Yehoudite. Et donc il va construire et la yeshiva, grâce à lui, va être construite la yeshiva de Porat Yosef. Yosef Chaim va également acheter une maison et une vigne à Hebron. Pourquoi ? Parce qu'il sait que tout juif doit avoir une possession, doit être attaché à la terre d'Israël, parce que tout juif doit y venir, et au-delà de ça, parce que c'est ce qui va lui permettre de réaliser les mitzvot atlouot ba'aretz. Comment est-ce que je peux réaliser les mitzvot atlouot ba'aretz? J'habite à Bagdad. Oui, mais si j'ai un bien, si j'ai une propriété en Eretz Israël, eh bien, je peux allier des chaliars, faire en sorte que toutes mes mitzvot atlouot ba'aretz soient quand même respectées. Il va être un des plus grands, un des plus grands prôneurs. Il va prôner la Aliyah, la Regel, les Eretz Israël. Pour ceux qui ne vont pas encore venir complètement s'installer en Israël, il dit qu'il est indispensable de venir Shalosh Pa'amim Bashana, Yireh Kol Zekhu Echa Et Pene Adon Hashem. Il faut venir en Eretz Israël. Si ce n'est pas pour y vivre tout le temps, alors les Fachot, Aliyah, la Regel. Et lui-même fera tous les ans Aliyah à la Regel, Aliyah à la Regel, Aliyah à la Regel. Lorsqu'il arrivera en Eretz Israël, il aura un Seder Kavua. À chaque fois qu'il vient en Eretz Israël, il va tout d'abord à Galil. Et lorsqu'il va à Galil, il va sur la tombe de Benayahu ben Yehoyada. Benayahu ben Yehoyada, Nessi à Sanhedrin, et le chef d'armée de Shlomo HaMelech, duquel Rabbi Yosef Chaim dira qu'il est le Gilgoul. Ensuite, on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ensuite, on va sur la tombe de Baran HaShulchan Aruch vers Arizal. Ensuite, on va à Hebron, Bemarat HaMakpela, Et ensuite, on termine à chaque fois à Yerushalayim. Et à chaque fois qu'il revient de Jérusalem, il amène avec lui Afara shel Eretz Israël. Et lorsqu'il ramène la Afar de Eretz Israël, eh bien, à chaque fois, il la dépose dans le sol de la synagogue de Bagdad où il va être le rabbin pour prier Ershéou quelque part sur la terre d'Eretz Israël. Il y a une pierre de Jérusalem qui est également celle qui orne le Kotel à Mizrahi ou à Maravi de sa synagogue. Ben, rappelez-vous, le Kotel à Maharavi, puisque dans sa synagogue, on se tourne vers l'ouest et non pas vers l'est, puisqu'il est à Bagdad, évidemment. Alors, Rabbi Yosef Haïm, juste avant qu'on arrive sur le contenu de son enseignement et sur ses sfarim, il y a une grande discussion de savoir où est-ce qu'il est enterré. Info. Si vous demandez aux chercheurs et si vous demandez à Internet, alors on va vous dire que Rabbi Yosef Haïm est mort en 1908 ou 9, par l'enquête, et qu'il est enterré en Irak. En Irak, là-bas, à Bagdad. Il avait l'habitude d'ailleurs d'aller très souvent sur la tombe de Hezkel Hanavi, qui est lui, elle aussi, dans le village de Kafil, en Irak. Eh bien, d'après la Massoret, il serait enterré là-bas, en Irak. Ceci étant, il y a sur le Mont des Oliviers une tombe à son nom. Ah ouais, Bebet Akvarot Beharazetim, il y a une tombe au nom du Ben Ishra. Et caché, Aïm Zenachon, Zelonachon, est-ce qu'il a été enterré au Harazetim? Est-ce qu'il n'a pas été enterré au Harazetim? Le Rav Mordechai Eliyahu lui disait que c'est Nachon, qu'il est vraiment enterré au Harazetim, parce qu'en fait, il est mort, il a été enterré à Bagdad, et finalement, eh bien, Rav Avraham Chaim Hades a fait un rêve dans lequel on lui a montré que on a ramené les ossements du Ben Ishraï à Yerushalayim, et bon, Yecholiot, le Rav Eliyahu, il dit que ça s'est vraiment passé, et que il est enterré, effectivement, à Jérusalem. Rabbi Yosef Haïm avait une shita de darshanout qui était très particulière. Dans ses drashot, eh bien, il mêlait tout le temps drasha be'alacha ou be'agada. Chose que nous, on fait d'habitude, enfin, d'après la halacha, je prends un rour, c'est que dans les grandes drashot de Shabbat Shuvah et Shabbat Agadol, lui, il faisait ça dans chaque drasha. Il faut bien comprendre que pendant 50 ans, il fera cours deux fois par jour. Après la tefillah de Vatikin, à la Shulchan Aruch, Alpi et Aosafot Shelo, et également après tefillah de Mincha, al Parashat HaShavua, Benyane de Yoma. Et tous les Shabbats, il y a une dracha dans la synagogue Salah al-Jahiri qui compte 1000 places et qui sont évidemment pleines, où il fait sa dracha. Il fait sa dracha à peu près 3 heures. 3 heures par Shabbat. Et lorsqu'il y avait les grands Shabbatot, à savoir Shabbat Shuva, Shabbat Zachor, Shabbat Agadol, et le Shabbat avant Shavuot, eh bien, il faisait cette fois sa dracha dans la grande synagogue de Bagdad, Salat al-Kabiri, où il y avait près de 10 000 places. Et là-bas, il parlait aussi pendant des heures et des heures. Omrim, personne ne peut vérifier, évidemment, mais Omrim, que dans 50 ans de drachot, deux fois par jour, quand on a les Shabbatot, machin, il n'a jamais redit la même chose. Kacha Omrim. Je ne sais pas si c'est vrai, mais une chose est sûre. Comment sait-on que le Ben Ishraï est Ratsouï et Lifnei Hashem? Comment est-ce qu'on sait qu'un rav, sa façon de voir la Torah et de la comprendre, de l'enseigner, c'est celle qu'Akadosh Baruch Hu a envie de retenir. Enfin, celle parmi celles qu'Akadosh Baruch Hu a envie de retenir. Bien, la réponse est très simple. Si cette chita-là s'est imposée dans le peuple juif, eh bien, ça veut dire bah, que ça marche. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est d'accord. Eh bien, les amis, quand on parle du Ben Yishraï, je ne sais pas s'il y a plus de livres qui ont été réédités autant que Sefer HaBen Yishraï. Bevadaï, qu'il a été accepté, Berov Keilot Israël, chez les Sfaradim, c'est une évidence, mais même chez les Ashkenazim, alors on ne va pas être posek forcément à la Chal puis à Ben Yishraï, mais il est quelqu'un qui fait l'unanimité. Même dans les milieux où on n'est pas possède comme lui, on ne peut pas ne pas faire référence à ce qu'il a écrit. C'est-à-dire que même le Rav Ovadia, lorsqu'il n'est pas d'accord avec le Ben Yishraï, il se base du Ben Yishraï pour amener ce que lui il va penser. En d'autres termes, Rabbi Yosef Haïm va laisser une trace indélébile dans l'identité juive de cette deuxième moitié du 19e siècle. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit ? Qu'est-ce qu'il a écrit ? C'est quoi son... Sa grande Yetzira Sifrutit. Allez, il a écrit plus de 100 ribourim, mais seuls 53 d'entre eux ont été imprimés. Et parmi toutes les choses qui ont été imprimées, alors on va faire la liste, parce que je me suis fait une petite liste pour que vous compreniez de quoi on parle. Eh bien, il y a les livres évidemment les plus connus. Alors, le plus connu, c'est Sefer HaBen Yishraï. C'est Sefer Halachot. Mais alors, attention, le Ben Yishraï a une façon d'écrire son livre qui n'est pas nouvelle. Au contraire, qui est la plus ancienne. Qu'est-ce que je veux dire par là, qui est la plus ancienne, Rabotai ? Quand vous lisez le Shulchan Aruch, eh bien, l'enseignement de la halakha est réuni par thème. C'est quoi les thèmes du Shulchan Aruch ? Eh bien, il y a 4 thèmes dans le Shulchan Aruch. D'accord ? C'est quoi ces 4 thèmes ? Ben, les 4 thèmes, c'est Orach Chaim, Yoredea, Even Ha'ezer et Choshen Mishpat. C'est les 4 thèmes. On va dire Orach Chaim, c'est la vie de tous les jours. Yoredea, Issur Ve'eter. Even Ha'ezer, dîner Ishout. Et Choshen Mishpat pour la Dayanut. Et en fait, c'est ce qu'on appelle Arba Turim. Le Shulchan Aruch se base sur le style de psika, les thèmes lancés par Rabbi Yosef Baal HaTorim. Rabbi Yaakov Baal HaTorim. Mais il y avait d'autres façons d'étudier avant. Avant les Arba Turim du Shulchan Aruch et du Tour, il y avait quoi ? Il y avait les 14 thèmes du Rambam. Le Rambam, lui, avait codifié la halakha aussi suivant des thèmes, mais suivant d'autres thèmes qui étaient les 14 thèmes du Yad HaChazaka. Oui, mais avant cela, il y avait d'autres classifications des thèmes de la halakha. C'était quoi ? Ben, Shisha Tzidre Mishnah. À la base, le thème, c'était la Mishnah. C'est-à-dire qu'il y a 6 thèmes. C'est quoi les 6 thèmes ? Le temps. Ensuite, c'est vrai, avant le temps. Avant le temps, on a Zraïm, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la terre d'Israël. Ensuite, on a le temps. OK ? Ensuite, on a tout ce qui a trait aux femmes. Tout ce qui a trait ensuite aux dommages. Ensuite, tout ce qui a trait à la Kedusha. Et ensuite, à la Tahara. C'est les 6 grands thèmes du chasse. Oui, mais à l'origine, les premiers livres de Halakha qui ont été écrits, ce n'est pas la Mishnah. Les premiers livres de Halakha suivaient, en fait, l'enseignement, qui n'était pas écrit d'ailleurs, qui était enseigné oralement, suivaient l'enseignement de la Parasha. Les Chachamim, ils lisaient la paracha, ils lisaient la Torah, et en fonction des différents versets qui passaient, eh bien, ils donnaient la halakhot qui était en lien avec ça. On pourra trouver ça dans le Sifri, ou dans le Sifra, le Ben Ishraï, alors qu'il y a eu la Mishnah, le Rambam, le Tour, eh bien, ils décident de revenir à la psika, au style d'origine, et ils décident donc de revenir à la l'organisation selon la Torah. Donc ça va être Sefer à Ben Ish Chai. Mais enfin bon, il y a énormément d'autres livres qui vont être les Sfarim les plus connus du Ben Ish Chai. Alors, il y a le Ben Ish Chai, évidemment, on l'a dit. Il y a des Sfarim qui sont des Sifrei Drashot. On va avoir, par exemple, Adéret Eliyahu, sur la Parashat HaShavua. On va avoir les Drashot du Ben Ish Chai, Drashot à Ben Ish Chai. On va avoir tous les livres qui s'appellent Benayahu Ben Yehoyada ou Ben Yehoyada tout court. Ben Yehoyada, ça peut être soit à la Torah, soit à la Talmud, soit à la Halakhot. Encore une fois, se sentant le Gilgul de Benayahu Ben Yehoyada, eh bien, il lui rend hommage dans les livres qu'il écrit en son nom. Et il va écrire également des livres qui sont des livres de Halakha Netto, comme on a dit le Ben Ish Chai, comme le livre Od Yosef Chai, qui est également un livre de Halakha, mais surtout son She'elot ou Tshuvot Rav Pe'alim. Wow, ça c'est un des livres les plus importants. Il y a également Mekabtiel. Alors ça, Mekabtiel, c'est un livre très important. C'est son Shulchan Aruch à lui. C'est-à-dire des She'elot ou Tshuvot sur les quatre parties du Shulchan Aruch. C'est un petit peu, hein, de la même façon que le Shulchan Aruch, c'est la version courte du Bet Yosef. Eh bien, le Mekabtiel, c'est la version courte du Rav Pe'alim. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Bon, évidemment, il y a des livres qu'il écrit sur le Talmud, on a dit, c'est Benayahu Ben Yehoyada. Il va également écrire, évidemment, des livres sur le Tanakh. Even Shlomo, Emma Meller, Divrei Chaim, des livres sur le Tanakh. Il écrira évidemment un des tomes de Benayahu, Ben Yehoyada, c'est sur le Tikkuné Zohar, où il va expliquer aussi ce qu'il en pense là-bas. Et il va écrire des Sifrei Tikkunim. Sifrei Tikkunim, comme le Or Zarua, Tikkun HaZohar, mais Kitsour, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et en fait, c'est de ça qu'on parle. Il va écrire également des piyutim. Il va écrire des piyutim, Ve'amartem kol echai, al Rabbi Shimon bar Yochai. On chante tous les ans, Hag Ba'Omer. Eh bien, c'est Rabbeinu Ben Ish Chai. Rotaï, aujourd'hui, si je devais résumer, Mekab Tziel, Ken Mekab Tziel, pas Mekab Tziel, et là, Mekabtiel, c'est-à-dire avec un bet, comme les kabets, rassemblés. C'est-à-dire, alors quand on parle un petit peu du Ben Ish Chai, si je devais conclure, je dirais la chose suivante. À Ben Ish Chai, il fait partie de ces rabbins qui sont des chachmés à Dorot. Vous vous rappelez, on a évoqué un petit peu cet enseignement-là. Il y a des rabbins qui vont marquer toute une génération. Et il y a des rabbins qui vont marquer toutes les générations. C'est-à-dire, Bevadaï ou Bevadaï, que Chacham Yosef Chaim, eh bien, il fait partie de ces rabbins-là. Et encore une fois, ce qui détermine si un rabbin va avoir une influence dans toute l'histoire juive, eh bien, c'est ce que le peuple juif va en faire. Tout simplement. On ne saura pas, on ne peut pas savoir maintenant. Si par exemple, je ne sais pas, si le Rav Cherki et le Rav Yoel vont avoir une influence sur toutes les générations. Je pense que oui, mais on ne peut pas le savoir maintenant. On le saura dans 100 ans, dans 200 ans. Est-ce que Am Israël, il va décider de les mettre en avant dans l'enseignement de la Torah, dans les références de la Torah. Eh bien, aujourd'hui, on peut voir, après 100 ans après la mort de Rabbi Yosef Haïm, que son influence est grandissante, fondamentale dans le monde juif. J'ai dit tout à l'heure que le rabbi de Gour lui avait donné un kavod énorme en disant « Non, Yachid Bedoro, Zé Abed Ishraï. » Maintenant, comprenez-moi bien, évidemment que dans le monde séfarade, le Ben Ishraï va avoir une influence déjà de son vivant énormément, puisque en tant que Rav Arashi, patron des Juifs de Bagdad et d'Irak en général, et de Syrie, il va être également le Rav de Chachmei Chalab. Mais Kitzur, évidemment que dans tout le monde séfarade, eh bien, déjà de son vivant, il est complètement accepté. Mais qu'en est-il du monde ashkénaze ? Eh bien, le monde ashkénaze, toute la partie chassidoute va tout de suite accepter le Ben Ishraï. Et ça, c'est impressionnant. L'autre à qui c'était arrivé, mais c'était plus tôt, c'était l'Or HaChaim HaKadosh. On avait expliqué qu'Or HaChaim HaKadosh, le Baal Shem Tov, et lui était Nafsho Kshura Benafsho. Et donc, comme le Baal Shem Tov était Kashur à Or HaChaim, alors tous les Chassidim sont Kashur à Or HaChaim. Et qu'aujourd'hui, quand tu vois une Iloula de Or HaChaim HaKadosh, il n'y a pas beaucoup de Marocains, mais il y a une grande majorité de gens qui parlent Yiddish. Le Ben Ishraï, eh bien, au niveau de la halakha, il ne va pas être accepté par les Ashkenazim. C'est-à-dire qu'au niveau de la halakha, on n'est pas possèque les filles à Ben Ishraï. Mais, au niveau de Torah ta Kabbalah, au niveau de Torah ta Sod, eh bien, à Ben Ishraï, shayach, au niveau de l'enseignement de Torah ta Sod, y compris chez les Ashkenazim. Et vous vous rappelez, on a dit, et je termine par là, on a dit que c'est un chidouche énorme de dire que maintenant on va être possèque halakha, alpi à Kabbalah pour tout le monde. Mais ça, ce n'est possible que parce que dans sa communauté, il sait que les gens qui sont autour de lui sont prêts à cela, sont au niveau de cela. Et c'est là que va y avoir une grande différence avec le Rav Mordechai Eliyahu, son fils spirituel, qui va dire qu'il ne peut pas, lui, avoir la même akpada, la même intransigeance que le Ben Ishraï, parce qu'il est Rav Arashi d'Israël et que, en tant que tel, il sait que dans la communauté des gens qui sont en Israël, eh bien, il y a trop de gens qui ne sont pas capables de prendre les enseignements du Ben Ishraï à la Chalema Asé. Et donc, bien lui, il va évidemment s'appuyer énormément sur Ben Ishraï, mais là où ça sera trop marmire, eh bien, le Rav Eliyahu restera sur quelque chose de moins virulent. Et Yesh le Tzayen, que le Ben Ishraï lui-même, bien que dans sa psikat halakha, il soit alpi Kabbalah, il soit très marmire, eh bien, il y a quand même des choses qu'il a gardées pour lui et qu'il n'a pas demandé à ses élèves de faire. Par exemple, le Ben Ishraï, lorsqu'il mangeait de la viande, il attendait, comme la Dea Mahmira Bagmara, il attendait 24 heures avant de pouvoir remanger du lait derrière. Ah là, c'est déjà une autre organisation quand tu veux te faire une glace. Mais voilà. Et donc, même lui, qui faisait ça pour lui-même, eh bien, n'a pas demandé à ses élèves de poursuivre la même chose. Chacham Yosef Haïm, Aben Ishraï, Rav Pealim, Dol, Rabbané, oh là là, Rav Rabbané, Gdol Rabbané Bagdad, Gdol Rabbané Irak, Gdol Rabbané Israël, Zéou, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? J'ai rien d'autre à dire. On a de la chance d'avoir eu des gens aussi grands que ceux-là. Zéou, vous pouvez allumer vos micros et à vous de jouer.
Merci beaucoup. Le temps que je l'autorise, j'ai une question, moi. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit il était parfois pas en accord avec lui, mais il utilisait les arguments du Ben Ishraï. Je crois que c'est sur le Rav Ovadia qui disait il était parfois pas en...
Regarde, quand tu dis moi j'ai un avis sur un sujet X, ok, je peux dire c'est mon avis, point. Et tous les autres qui pensent pas comme moi, chez Rapsou et Tachaverim Shalem. Mais même lorsque le Rav Ovadia n'est pas d'accord avec le Ben Ishraï, il l'amène d'abord. C'est pas moi je pense ça et puis les autres ils ont. Non, il dit à Ben Ishraï Amar, donc on est obligé de l'Itiachès. Ok? C'est ça la grande différence. Oui, Vélitia,
J'ai une question là, parce que vous parlez de sexe. Alors, et à ma compréhension, nous avons Edom et nous avons des Svaradim.
ah, tout à fait. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tu as raison.
Et là, je suis un petit peu en bilboule.
Alors, tu as raison, tu as raison, tu as raison. En fait, c'est complètement de ma faute. C'est complètement de ma faute. J'ai fait un abus de langage. Tu as raison que Sfaradim, ce n'est pas du tout la région dans laquelle le Ben Yishraï était poël. Sfaradim, c'est Tzfon Africa. C'est l'Afrique du Nord. Ça, c'est les Sfaradim qui viennent de Sfarad. Effectivement, tu as raison. Tu as raison que à Bagdad, à Izmir, à Halab, on parle de Edot HaMizrah. Tu as raison à 100%. Et c'est vrai que Chachmé HaSfaradim, eh bien, vont être moins directement influencés par le Ben Yishraï que Chachmé HaMizrah. Tu as tout à fait raison. Donc, effectivement, quand on parle du Ben Yishraï, c'est Edot HaMizrah. C'est moi qui fais un abus de langage. C'est très bien que tu aies remis les choses à leur place.
Il y a beaucoup de et
Alors,
il y a quelqu'un qui
vous
nous
pouvez juste
appelle.
débloquer vos micros uniquement quand vous avez la question, s'il vous plaît, pour qu'on puisse entendre les autres.
Y a-t-il un lien
Ah.
entre de Rav, de Ben Ishraï et des grands rabbins d'Afrique du Nord?
Excuse-moi, j'ai pas entendu le début de ta question.
Quel lien entre les décisions entre
Ah, est-ce qu'il y a des liens entre les rabbanim d'Afrique du Nord et le Ben Yishraï? Bien sûr, mais ils n'étaient pas aussi influencés que les rabbanim de la région de Bagdad et de la région de Eretz Israël.
Ok, Toda.
Bakasha. David.
Oui, bonjour. J'aimerais savoir, je ne sais pas s'il l'explique, mais pourquoi il s'attache particulièrement au personnage de Benayahu Ben Yehoyada? Avec ma maigre étude de Torah que j'ai, on voit par exemple les Gilgoulim de Benayahu, il y a aussi Shemaya, il y a aussi Caleb Ben Yefouné, Eliezer. Pourquoi Dafka Benayahu?
Benayahu Ben Yehoyada, c'est le, comme on l'a dit, il est le Nassi HaSanhedrin du Beth Amikdash. Et c'est quand même un poste pas des moindres. Là, donc c'est en fait l'idéal du rabbin, c'est Benayahu Ben Yehoyada. Non seulement Nassi HaSanhedrin, mais à l'époque du premier Beth Amikdash où la Shrina règne à Jérusalem. Bon,
Et
tu peux pas.
guerrier.
Hein?
Et guerrier.
Et guerrier en plus, tu peux pas faire mieux. T'es au top. Il y a pas au-dessus.
Donc,
Eh,
merci.
Jiminessim.
Oui, bonjour Rav. Je voulais savoir, est-ce que le fait d'adopter, est-ce que le fait d'allier la halakha à la Kabbalah, c'est forcément adopter un comportement plus mahmir?
Quelque part, oui. Pourquoi? Parce que le Mekoubal, il décide d'élever des étincelles de sainteté. On ne peut pas demander à tout le monde. Parce que la halakha, elle doit demander à tout le monde de faire 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, la halakha, elle ne peut pas demander des choses trop compliquées. Mais le Mekoubal, lui, sait qu'il y a des étincelles de sainteté ailleurs, qu'il faut aller chercher également. Donc, en général, il est mahmir pour lui-même. Mais à partir du moment où il décide que c'est cette psyka-là qu'il faut amener à tout le monde parce que les gens sont capables de le faire, Et bien alors concrètement, on va aller chercher un petit peu plus loin. Et oui, il n'y a pas vraiment le choix.
Oui, mais si la l'étincelle de Kdusha se trouve justement dans des choses qui sont impures, par exemple dans l'art ou dans quelque chose comme ça, comment ils font?
J'ai pas compris.
Bon, alors c'est pas grave. C'est
Non,
pas grave.
non, ça veut dire, quand je te dis, j'ai pas compris. Quand tu dis l'étincelle de sainteté, si elle est impure, ça c'est assourd.
Non, elle n'est pas impure. Elle se trouve dans quelque chose qui est a priori impur. Ah, par exemple, dans
Mais
le
pourquoi
hall.
l'art c'est impur?
Attention de dire que l'art c'est impur.
Et pourquoi l'art c'est impur? J'ai pas compris.
Par exemple, si je vais regarder un film au cinéma,
Oui.
ou si je regarde une œuvre d'art, il peut y avoir certaines choses qui sont impures dedans. Et dedans, il va y avoir aussi une étincelle de Kdusha. Et donc, trouver
Ça,
cette étincelle dans un endroit, quelque chose.
ce à quoi tu fais référence, c'est ce qui est du domaine du assourd. C'est-à-dire, dans ce monde, il y a des choses interdites par la Torah, et pourtant, on sait que Dieu, il est quand même présent là-bas. Donc, ce n'est pas des étincelles de sainteté, c'est la présence divine, mais que Dieu nous a dit, je veux pas que tu ailles là-bas. C'est mon problème, pourquoi il y a ça? Alors, quand tu me dis un film au cinéma, il y a des films qui sont cachers la mehadrine, comme il y a des œuvres d'art qui sont cachères la mehadrine, comme il y a des œuvres musicales qui sont cachères la mehadrine, comme il y a des livres qui sont cachés à la mehadrine. Et dans le même sens, il y a des films qui sont pas cachers, il y a des films qui sont, il y a des toiles qui sont pas cachères, il y a des musiques qui sont pas cachères, et il y a des livres qui sont pas cachères. Donc ce qui est pas cachère, c'est ce que tu peux pas aller parce que c'est pas de Tsanoua, parce que c'est gasse, parce que truc. Alors tu y vas pas. C'est interdit. Prends une œuvre musicale, quelqu'un qui fait une œuvre musicale. Et le rythme musical est très intéressant et machin, on pourrait apprendre plein de choses au niveau musical, mais les paroles de la musique sont complètement des gros mots toute la journée. Eh bien, tu ne peux pas l'écouter, parce que c'est interdit d'essayer de trouver du bien là-bas, tu vas plus être influencé en mal qu'en bien. Il y a une œuvre d'art, la personne, elle a fait un tableau de nu, d'une femme nue. Et le mec, c'est un maître peintre. Ouais, il l'a très bien dessiné. Tellement bien dessiné que tu n'as pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Bon, ben, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce que ça va quand même influencer pas mal de choses négatives chez toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas bien peint. Donc, là où on peut dévoiler des étincelles de sainteté, c'est là où ce n'est pas interdit. Là où c'est interdit, c'est interdit.
Très bien, merci beaucoup.
Akasha.
Bonjour, à
Bonjour.
présent. Est-ce que vous
Il y a.
pouvez donner un... C'est Caroline qui parle. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de halakha, les filles à Kabbalah, par exemple, qui distingue ces enseignements de la halakha du Shulchan Aroukh,
Oui,
par
par exemple,
exemple?
il faut mettre deux tefillines en même temps quand on fait la tefillah le matin, par exemple. Et les tefillines de Rashi et les tefillines de Rabbeinu Tam en même temps, et pas l'un après l'autre. Comme la majorité des gens qui font les deux tefillines, enfin, la majorité des gens, ils ne mettent qu'un tefillin, celle de Rashi, c'est la halakha. Il y en a qui font son marmire sur eux, alpi à Kabbalah, une fois qu'ils ont fini de mettre Rashi, ils mettent aussi Rabbeinu Tam. Et lui, il dit, il faut mettre les deux en même temps.
Ok.
Et
Merci.
Kvodarav,